indépendance, tcha-tcha, tozoumiye, oki poinza, tcha-tcha, tobakidi.
La grenouille vous propose des lectures d'extraits de deux livres du célèbre journaliste polonais Kapuscinski. Eben, écrit en 1998, et Il n'y aura pas de paradis, écrit en 1978, initialement publié sous le titre La guerre du foot. Mort en 2007, Kapuscinski a parcouru l'Afrique en tant que reporter pendant la période des indépendances. À cette époque, le monde s'intéressait à l'Afrique. Le continent noir était une énigme, un mystère. On s'interrogeait sur ce qui se passerait quand 300 millions d'hommes redresseraient l'échine et réclameraient voix au chapitre. Des États se soulevaient les uns après les autres, achetaient des armes, et la presse internationale se demandait si l'Afrique n'allait pas se lancer à l'assaut de l'Europe. Aujourd'hui, cette interrogation paraît peu sérieuse. Mais à l'époque, elle était posée avec inquiétude et gravité. Les gens voulaient savoir ce qui se passait sur ce continent, où il s'orientait et quelles étaient ses intentions. Je n'ai jamais été fascinée par ce qu'on appelle l'exotisme, même si par la suite, j'ai passé plusieurs années dans un univers défini comme tel. Je n'ai jamais écrit sur la chasse aux crocodiles ou les chasseurs de têtes, si passionnant que soient ces thèmes. En revanche, j'ai découvert une autre réalité, pour moi plus séduisante qu'une expédition dans un village de sorciers ou une réserve de fauves. À cette époque, une Afrique nouvelle était en train de naître. Ce n'est pas une métaphore ni un cliché d'éditorial. Cette naissance se passa dans la douleur et le drame, mais elle connut des instants sereins et joyeux. Dans un cas comme dans l'autre, elle se déroula selon des standards différents, dans un autre climat. Bref, différemment de notre point de vue. Personnellement, j'ai vécu cette spécificité comme un exotisme nouveau, inédit. J'ai pensé que la meilleure façon de décrire l'Afrique était de parler de la plus grande figure du continent à cette époque. Un homme politique, un visionnaire, un tribun et un mage, Nkrumah.
Ago, wanyo kong mene makasa kakra, enzi wanyo kong mene wengtiam kakra, men kasa pi. Dame pere makande, mbakan zbapu kakra, nemi wye makan mpante. The battle has ended. And thus, Ghana, your beloved country, is free forever. And here again, I want to take the opportunity to thank the chiefs and people of this country, the youth, the farmers, the women, who have so nobly fought and won this battle. Also, I want to thank the valiant ex-servicemen who have so cooperated with me in this mighty task of freeing our country from foreign rule and imperialism. And as I pointed out at our party conference at Sorbonne, I made it quite clear that from now on today, we must change our attitudes, our minds. We must realize that from now on, we are no more a colonial, but a free and independent people. We are prepared to build it up and make it a nation that to be respected by every other nation in the world. We know we are going to have difficult beginnings, but again, I'm relying upon your support so that we can prove to the world that when the African is given a chance, he can show to the world that he's somebody. We say no more go back to sleep anymore. Today, from now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that, after all, the black man is capable of managing his own affairs. We are going to demonstrate to the world that we create our own African personality and identity. This is the only way in which we can show the world that we are ready for our own battle. And we again rededicate ourselves not only in the struggle to emancipate other territories in Africa. Our independence is meaningless unless it is linked up with the total liberation of the African continent. Ghana is free forever.
Le vagabond de Harlem.
Freedom! Freedom!
Place West End. Une fourmilière humaine, au milieu, un bûcher. Une flamme jaillit, qui va être sacrifié? De bonne heure, les autos du parti, surmontés de haut-parleurs, ont parcouru la ville.
Que vous soyez dans la rue, au marché, à la maison ou au bureau, venez exprimer votre colère.
Pas la peine de le dire deux fois. Manifester ses sentiments est un devoir pour le peuple. Or ici, le peuple connaît ses obligations. La place est donc pleine, les gens sont serrés les uns contre les autres, mais ils sont patients. Ils étouffent, mais résistent. Le soleil cogne, mais c'est leur pain quotidien. Ils sont torturés par la soif, mais il n'y a pas d'eau. Un brasier en dessous, la terre, un brasier au-dessus, le ciel. Quand on est pris dans cet étau de feu, il vaut mieux rester tranquille car le mouvement épuise. On ne bouge donc pas dans l'attente de la troisième flamme, celle du bûcher. Je m'informe à droite et à gauche. Que va-t-il se passer? Personne ne le sait. On leur a demandé de venir, c'est tout. On ne les aurait pas fait venir sans raison. Les personnes que j'accoste me regardent d'un air étonné. À quoi bon toutes ces questions? La réponse ne va pas tarder. Nous serons informés quand il le faudra. Welbeck va prendre la parole. Le ministre d'État Welbeck, imposant, timide, coiffé de la calotte noire. Il s'empare du micro. Le son est mauvais. Mais on peut saisir le sens de ses paroles.
L'impérialisme gagne du terrain. Nkrumah a été offensé. C'est une diffamation.
Oh là là, ça a l'air sérieux.
Nous ne pouvons...
Ceux qui n'ont pas encore succombé tendent l'oreille, se pressent contre Welbeck. Les têtes ondulent, puis s'immobilisent. Le ministre poursuit.
L'impérialisme voudrait... Mais nous, donc jamais. Finissons-en.
Exige des impatients calmés aussitôt par leurs voisins. Désordre, regain de tumulte, calme.
Le journal américain Time a calomnié Nkrumah. Cet homme, le guide, le créateur, le magicien du nationalisme contemporain, a été présenté comme un vulgaire petit carriériste.
Ça y est, j'ai compris. Un journal qui s'appelle le Time a dénigré Kwame. Voici la note publiée par le Time le 21 décembre 1959.
Au début, ces hommes l'appelaient l'homme spectacle. Puis, il est devenu Premier ministre. Cette année, il est passé conseiller privé royal. Ses admirateurs, au Ghana, le gratifient aussi du nom de premier citoyen de l'Afrique. Le panégyrique de ce quinquagénaire ne semble pas connaître de limites. La semaine dernière, l'un de ses plus fervents défenseurs à Accra, le journal Evening News, qui presque chaque jour publie une ou plusieurs photos de Nkrumah, a déclaré qu'en mars, la population du Ghana aurait à prendre position sur deux points. Premièrement, la fondation d'une république à part entière et la révocation d'Elisabeth II, la reine du Ghana. Deuxièmement, la nomination de Nkrumah comme premier président pour une période de 7 ans. Selon l'Evening News, seul un homme correspond à ce poste. Cet homme est Kwame Nkrumah, le libérateur et le fondateur du Ghana.
Cette note du Time est vraiment honteuse.
Le panégyrique de ce quinquagénaire ne semble pas connaître de limites.
Mais en quoi cela les regarde-t-il ? Je sens que je suis gagnée par l'état d'esprit de la foule. Je joue des coudes pour m'approcher de la tribune. Je veux mieux entendre.
Ces manœuvres scandaleuses sont vouées à l'échec. Kwame est au Ghana ce que Lincoln fut à l'Amérique, Lénine à la Russie, Nelson à l'Angleterre. Une véritable bénédiction. Nkrumah est un bijou sans prix dans la couronne du nationalisme mondial. Il est le messie et l'organisateur, l'ami de l'humanité souffrante. Il est arrivé au sommet par la voie de la douleur, du service et du sacrifice.
Comme Welbeck s'est joliment exprimé, les gens applaudissent avec reconnaissance. Ces messieurs du Time en ont pris pour leur grade. Ils n'ont rien à faire ici. Debout, au cœur de la foule, je suis en train d'écrire, quand soudain je sens que j'étouffe moins, qu'autour de moi j'ai plus d'espace, que ceux qui étaient tout contre moi s'écartent. Je regarde à droite et à gauche. Ses yeux ne sont pas bienveillants. Leur éclat est glacé. J'ai soudain froid. Je viens de comprendre. Je suis le seul blanc. Et en plus, je prends des notes. Donc, je suis journaliste. Je porte une chemise imprimée. Je ne suis donc certainement pas anglais, car les Anglais ne portent pas de chemise imprimée. Si je ne suis pas anglais, que puis-je donc être ? Un Américain. Un journaliste américain. Ciel, comment prendre la poudre d'escampette ?
Au feu !
S'écrient les activistes qui poussent la foule vers le bûcher. Cris violents, menaces, bougonnements, trépignements. Les cris de Welbeck ne sont pas entendus, bien que ce soit lui qui donne le signal.
Au feu !
Ils prennent un tas de magazines et l'enflamment. Une fumée noire s'élève, car il n'y a pas un brin de vent. Tout le monde veut voir. Tout le monde se bouscule vers le bûcher. Welbeck s'écrie.
Ne poussez pas, c'est dangereux !
Personne n'écoute. Ceux qui ont une feuille de papier dans la main la jettent au feu. Le bûcher flambe. Des fanfares retentissent, des lambeaux noirs flottent dans l'air. Les gens soufflent sur les bouts de papier qui volent, leur tombent sur la tête, ils rient. Rassénérés, sereins, ils plaisantent. Autour du feu, les enfants dansent. Regardez, on va pouvoir faire griller des bananes. Welbeck s'est engouffré dans une limousine noire. Sa voiture file dans les petites rues d'Accra et débouche sur la grande Independence Avenue. Le ministre se rend à la Flagstaff House, chez Nkrumah. Le Premier ministre va écouter le compte-rendu du meeting. Il va rire, car le rire, ici, est une réaction normale à tout ce qui se termine bien. La manifestation organisée par le parti était un test. La conclusion est positive, le peuple vénère Kwame. Kwame est un ami, un frère. C'est ainsi que l'on parle de lui. Une femme me montre son bébé. « Comment s'appelle-t-il » demandai-je. « Kwame Nkrumah. » Elle-même porte une robe à l'effigie du Premier ministre. Kwame est imprimé sur les poitrines, sur les épaules. Nkrumah plaisante.
J'aimerais bien savoir combien il y a de Kwame Nkrumah dans notre pays. Je crains de laisser le souvenir d'une extraordinaire fécondité.
Lui-même vient de se marier. Il aime souligner que toute sa vie, il a évité les femmes, l'argent et le devoir religieux.
Je considère que ces trois facteurs doivent jouer un rôle mineur dans la vie d'un homme. Car si l'un d'entre eux prend le dessus, l'homme en devient l'esclave et son individualité est brisée.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances,
si j'accepte qu'une femme joue un rôle important dans ma vie, je risque de perdre de vue le but que je me suis assigné.
Ce but, Kwame se l'est fixé dès son enfance. la libération du Ghana. Pour l'atteindre, il faut d'abord être quelqu'un, c'est la première étape. Le Ghana est à cette époque une colonie. Un noir n'a aucune chance d'y faire carrière. Kwame envisage d'aller suivre des études aux États-Unis. Son père est orfèvre dans une petite ville de province. Il n'a pas les moyens de payer des études à son fils. Mais Kwame a terminé l'institut pédagogique et est instituteur dans une école de la mission catholique à Elmina. Il y enseigne pendant 5 ans, se prive de tout, souffre de la faim, épargne le moindre sou. Ses conditions de logement sont terribles, mais il met de côté pour son billet. En 1935, à l'âge de 26 ans, il s'envole pour les États-Unis. Il est admis à l'université Lincoln. Comment se sent-il dans ce pays ?
J'allais en autocar de Philadelphie à Washington. Le car a fait une halte à Baltimore pour que les voyageurs puissent se rafraîchir. Mourant de soif, je me suis rendue au buffet de la station et j'ai demandé à un serveur blanc un verre d'eau. Il a froncé les sourcils et m'a regardé par en dessous. « Toi, tu peux te désaltérer là-bas. » Et il m'a montré un crachoir.
Il étudie, travaille, gagne de l'argent.
Je considérais que si je n'étais pas occupée 24 heures sur 24, je perdais mon temps.
Aussi, travaille-t-il comme gardien de nuit dans la société Sun, les chantiers navals Chester.
Par tous les temps, je travaillais de minuit à 8 heures du matin. Parfois, il faisait si froid que mes mains restaient collées à l'acier. Pendant la journée, j'étudiais.
Aussi, travaille-t-il dans une fabrique de savon.
Dans la cour de l'usine, s'entassait une montagne de tripes en putréfaction et de morceaux de graisse animale. Armée d'une fourche, je devais charger cette marchandise puante sur des brouettes. J'avais en permanence une nausée abominable.
Aussi, pendant les vacances, se rend-il à New York.
À Harlem, avec un camarade, nous achetions du poisson au prix de gros et nous passions la journée au coin des rues à essayer de le revendre.
Aussi, travaille-t-il comme steward sur le paquebot Shawnee, qui fait la ligne entre New York et Veracruz.
Le capitaine m'a mis à la plonge. Jusqu'à la fin de la croisière, je devais récupérer les casseroles. Mais je suis montée en grade et j'ai fini par laver les plats.
Il n'a pas de logement. À Philadelphie, la police le chasse avec son ami, de la gare où il voulait passer la nuit. Les deux compères décident alors de dormir dans un parc. Là-bas, les grilles des parcs restent ouvertes toute la nuit, contrairement à Londres.
Nous avons trouvé des bancs et nous nous sommes couchés, pensant y passer tranquillement la fin de la nuit. Mais le sort s'acharnait décidément sur nous. À peine endormis, nous avons été réveillés par une pluie battante.
Il fait ses études, participe à des réunions, est très actif, travaille sur lui-même.
Je suis devenu franc-maçon du 32e degré et je le suis resté pendant tout mon séjour aux États-Unis.
Il agit.
J'ai également fondé l'association des étudiants africains d'Amérique et du Canada. J'ai écrit la brochure « Vers la liberté des colonies ».
Il s'intéresse au socialisme scientifique.
Les travaux de Marx et de Lénine m'ont particulièrement marqué.
Il étudie la théologie et en même temps,
je consacrais beaucoup de mon temps libre à prononcer des sermons dans les églises noires où j'étais invité presque tous les dimanches.
Lorsque, en 1945, il quitte les États-Unis, il a à son actif une expérience pédagogique solide puisqu'il a été chargé de cours de philosophie à l'université Lincoln, histoire grecque et africaine.
J'ai reçu la distinction du meilleur professeur de l'année.
Il va à Londres.
À Londres, l'un de mes passe-temps favoris consistait à acheter le Daily Worker, le seul journal que je lisais volontiers, à le déployer de manière ostentatoire et à observer les réactions des gens. Aussitôt, les regards convergeaient sur moi.
Pour chauffer le local de l'Union des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, dont il est le vice-président, il récupère des morceaux de charbon dans les rues. En même temps, il écrit son doctorat de philosophie sur le positivisme logique. Il définit sa doctrine du boycott pacifique, celle du socialisme africain reposant sur la tactique de l'activité constructive sans recours à la force. Kwame revient au Ghana, nous sommes en 1947. Là-bas, à peine une douzaine de personnes le connaît. Il s'agit justement du groupe qui dirige le mouvement de libération, la tête de la Convention unie de la Côte de l'Or. Ce mouvement qui vient de naître est largement implanté dans le pays. Mais son programme est inexistant et ses orientations très floues. Ses membres ont la réputation d'intellectuels, ils ont besoin d'un homme de main. Nkrumah est l'homme qu'il leur faut. Il n'a pas d'autre occupation.
À cette époque, tout mon patrimoine tenait dans une petite valise.
L'année suivante, lors d'une manifestation pacifique, il marche sur la résidence du gouverneur général, le château de Christiansborg. Des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale défilent avec une pétition revendiquant la reconnaissance de l'autonomie de la Côte de l'Or. La police tire quelques coups de feu, il y a 2 morts. Aujourd'hui, de jolies fleurs poussent là où les victimes sont tombées. On me montre cet endroit 100 fois. Pour la liberté du Ghana, 2 hommes ont péri. Debout, je baisse la tête. Kofi demande.
Y a-t-il eu aussi des victimes pour la liberté de la Pologne ?
À Accra éclatent des émeutes, des incendies, des pillages. La direction de la Convention unie est incarcérée. Nkrumah est emmené au nord dans la savane.
Là-bas, il m'enferme dans une case minuscule où je suis surveillé jour et nuit par la police.
Il est libéré, mais quand il reprend ses activités, il voit qu'il ne parle pas le même langage que les leaders du groupe. Ils veulent pactiser avec les Anglais dans les cabinets ministériels. Lui aussi veut négocier avec les Anglais, mais avec la participation de la foule dans la rue. Ces dirigeants qui ont fait leurs études à Oxford veulent atteindre leur but par la voie légale. Kwame, lui, a lu Lénine, qui le pousse à aller dans la rue. « Regarde, dit-il, c'est là que se trouve la force. »«
La force ?»
s'étonne Kwame. « Des ruelles bondées, des marchands qui crient, des enfants qui dorment à l'ombre des portes. Plantés au coin des rues, des bandes de gamins qui cherchent la bagarre, des musulmans couchés à même le sol, étourdis par le soleil, des porteurs tout en muscles qui gémissent, écrasés par le fardeau des sacs. »
C'est là que se trouve la force,
insiste le russe. En général, on ne peut pas faire confiance à un blanc. Mais Kwame est seul. Les leaders se sont détournés de lui. Ils veulent le renvoyer en Angleterre. Alors, Kwame décide de faire appel à la rue. Aux marchandes, aux gamins, aux porteurs, aux paysans et aux fonctionnaires, à la jeunesse. Surtout à la jeunesse. Et ce pas est décisif. Les Anglais tergiversent. Kwame lance le slogan du boycott général. Toute la vie économique du pays est paralysée. Les arrestations, la répression, les coups de matraque reprennent. Kwame est incarcéré. Des foules se réunissent devant la prison en chantant des hymnes et des chansons. L'une d'entre elles, intitulée
« Le corps de Kwame Nkrumah pourri derrière les barreaux »
est restée dans ma mémoire. Les Anglais cèdent. Ils autorisent des élections générales, une première en Afrique. En février 1951, le Ghana se rend aux urnes. Victoire étourdissante du parti de Nkrumah. 34 sièges sur 38 au Parlement. La situation est ridicule. Un parti remporte les élections alors que le corps de son leader pourrait en prison. Les Anglais sont obligés de le libérer. Porté par la foule, Kwame est emporté de sa cellule au fauteuil de Premier ministre. En chemin, le cortège s'arrête sur la place West End.
Là, nous avons célébré le traditionnel rite de la purification. Une brebis a été sacrifiée et j'ai dû à 7 reprises prendre un bain de pied dans le sang de la victime afin de me purifier de la souillure de la prison.
Les portes de sa maison restent toujours ouvertes. Les gens viennent demander des conseils ou de l'aide. Ils viennent le saluer. Il lui arrive de prendre un bain et de donner une consultation à travers la porte.
Je dors en moyenne 4 heures par nuit. Ils ne me laissent pas tranquille. Ils ne me laissent aucun répit. Pour eux, je suis un automate qui est remonté le matin et qui n'a besoin ni de sommeil, ni de nourriture.
Quand le Premier ministre se rend dans les villages, il dort dans des cases. Parfois le soir, il s'attarde dehors à parler avec les gens. Il ne rentre pas chez lui et passe la nuit là où on l'invite. Il se concilie tout le monde. C'est de cette manière qu'il passe son temps. 6 ans plus tard, le 6 mars 1957, le Ghana acquiert l'indépendance. C'est le premier pays d'Afrique noire à devenir indépendant.
This day will never be forgotten, the 6th of March 1957, when the Gold Coast successfully get your independence officially.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Dr. Nkrumah went out his way to make the Gold Coast what it is today. He endeavored continually to bring us freedom and liberty.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day.
as agitator. Then he became popular leader. He continued to go further, and now he is Ghana's prime minister.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. The national flag is a lovely scene with beautiful colors, red, gold, and green, and a black star in the center representing the freedom of Africa.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim we will be jolly, merry, and gay the 6th of March, Independence Day. Congratulations from Haile Selassie was proudly received by everybody. He particularly commend on the doctor's move to self-government.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim we will be jolly, merry and gay the 6th of March, Independence Day.
La foule est rassemblée sur la place West End, en plein soleil, sous le ciel blanc de l'Afrique. La foule attend Nkrumah, noire, patiente, tout en sueur. Cette place, une poêle à frire brune au centre d'Accra, est pleine à ras-bord. Quelques retardataires essaient de s'y glisser par la force. La palissade qui entoure la place finit par craquer, et les gosses qui étaient perchés dessus tombent comme des bananes. Il fait chaud. Ce meeting pourrait se dérouler près de la mer. Là-bas, il y a de l'air et des palmiers. Mais à quoi bon les courants d'air et les palmiers ? L'essentiel est d'être là au rendez-vous avec l'histoire. L'histoire nous apprend en effet que, en 1950, Kwame Nkrumah a organisé un meeting à West End. Les gens y sont venus et ils sont aussi restés debout. Il faisait la même chaleur écrasante, c'était en janvier, le mois de la sécheresse. À l'époque, Kwame Nkrumah parlait de liberté. Le Ghana devait être indépendant et il fallait se battre pour cet idéal. Mais pour y parvenir, il existait trois voies. Celle de la révolution armée, que l'orateur réfutait, celle des accords avec les cabinets ministériels, que l'orateur rejetait également, et enfin la voie de la lutte du peuple par des moyens pacifiques. C'est ce dernier slogan qui s'est fait entendre sur la place West End. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce jour, une fête presque. Le Premier ministre va prendre la parole et dire ce que tous les dirigeants du monde entier adorent dire.
Notre voix était juste.
On March 6, 1957, the Gold Coast became the first black African colony to gain independence from colonial Britain. Renamed Ghana, this newly independent nation would be led by Dr. Kwame Nkrumah. Nkrumah was celebrated as a hero, a visionary who would show Africa the way to independence. And while Ghana led the way, other African nations would soon follow. Between 1958 and 1964, 26 African nations gained their freedom from colonial rule. It was the end of an era. A new generation of African nationalists had come to power. Men like Nkrumah in Ghana, Ahmed Sekou Touré in Guinea, and Patrice Lumumba in what was then the Belgian Congo. For Africa, it was a period of great optimism.
There is a new African in the world, ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing all of us.
And Nkrumah called for a United States of Africa, where all African nations would be members of a political union, much like the United States. He dreamed of a day when all of Africa would be united under a single flag, with a star for each country. As the flag of newly independent Ghana rose for the first time in the night sky, it was clear that Nkrumah hoped the stars would be black.
Sur la place, De grands mâts ont été fichés en terre. Ils sont 12. Chacun arbore 8 portraits de Nkrumah. Cela fait en tout 96 portraits. Les mâts sont reliés par des cordes en nylon sur lesquelles sont accrochées des bannières. Elles arborent le logo de la bière hollandaise Heineken. L'ensemble ressemble à un immense navire, un navire qui ne vogue plus, qui s'est échoué dans une ville. Les gens sont dans l'expectative. Là-bas, des ministres et des dirigeants du parti montent sur la tribune. Pour l'occasion, ils ont revêtu une djellaba, vêtement qui rappellerait une chasuble si elle était plus rigide et plus richement brodée. La foule s'anime, des applaudissements se font entendre. Si, dans la foule, se trouve un ami ou un cousin du ministre, il s'écrie.
Salut Kofi.
Il s'agit du ministre de l'éducation, Kofi Bahako.
Salut Tawaya.
Il s'agit du secrétaire général du parti, Tawaya Adamafio. Les dirigeants répondent d'un geste de la main et s'assoient dans de profonds fauteuils. Puis, un pasteur s'approche du microphone installé sur la tribune. Je le reconnais, c'est le révérend Nimako, le chef de l'église méthodiste d'Accra. Le pasteur va prier, car il joint les mains et ferme les yeux. Les haut-parleurs suspendus autour de la place sont en mauvais état, ils crépitent, mais le sens de la prière est clair, c'est une action de grâce. Le pasteur remercie Dieu d'avoir béni le peuple du Ghana, d'avoir pris sous sa protection Kwame Nkrumah, d'avoir écouté les prières que ce petit coin du monde lui a adressées. Puis il prie Dieu de ne pas renoncer à ses bienfaits et de garder l'avenir de ce pays dans la lumière et dans la paix.
Amen. Amen,
marmonne la foule. Dans la rue, des jeunes font éclater deux pétards. Le pasteur cède la place à Bedema, le ministre des Finances, qui parle à son tour dans le microphone. Il annonce qu'il faut attendre parce que le guide n'est pas encore arrivé et qu'il va en profiter pour relater l'histoire de la lutte pour l'indépendance du Ghana. Au milieu de son récit, on annonce l'arrivée de Nkrumah. La foule se met à onduler. Les gens tendent le cou. Les enfants passent de bras en bras. Tawaya Adamafio se lève de son fauteuil et s'exclame.
Camarades, lorsque notre guide bien-aimé apparaîtra, saluez-le tous en agitant bien haut vos mouchoirs. Voilà, comme ça.
Et il montre le geste tandis que la foule s'entraîne par deux fois. Kwame Nkrumah est sur la tribune. Il porte une djellaba grise, comme celle du monument érigé devant le bâtiment du Parlement. Dans la main, il tient une baguette tendue de peau de singe. D'après la croyance, elle est censée éloigner de l'homme le mal et les forces impures. La place vibre, les mouchoirs s'agitent, les gens scandent. Aïa ! Aïa ! C'est un cri d'enthousiasme. Les nourrissons qui, jusqu'à présent, somnolaient dans le dos de leur mère, s'agitent avec inquiétude. Mais, dans le tintamarre général, on n'entend pas leurs cris. À la suite de Nkrumah, 6 policiers coiffés de casques de moto montent sur la tribune, aussitôt assaillis d'une foule de gamins. 2 policiers se placent au coin et 4 se mettent en rang derrière le fauteuil du Premier ministre. Les jambes écartées, la main derrière le dos, ils vont rester immobiles jusqu'à la fin du meeting. Nkrumah s'est installé dans son fauteuil derrière une petite table recouverte du drapeau national. La place est soudain devenue silencieuse. La chaleur est toujours aussi forte, le seul fait de crier épuise. Quelqu'un entonne un chant du parti, mais avant qu'il soit repris, 2 sorciers apparaissent sur la tribune. L'un d'eux est Nai Wolomo, le grand sorcier du district Ga, où est situé Accra. Je ne connais pas le second. Il commence la cérémonie rituelle par une danse. Exécutant des pirouettes sacrées, il salue bien Ban Nkrumah. Quand ils se penchent devant le Premier ministre, ils tendent leur derrière en arrière. Ce qui ne manque pas d'amuser la foule qui applaudit et crie de nouveau
« Aïa ! Aïa ! »
Fatigués, les sorciers s'arrêtent et exhibent 2 bouteilles de schnapps. Le schnapps est une vodka que la Hollande exporte au Ghana, une eau-de-vie parfumée. Mais le schnapps des sorciers a des pouvoirs magiques. C'est une boisson sacrée et les sorciers en offrent à Nkrumah. Le Premier ministre se lève, boit un petit verre qu'il prend des mains du sorcier. Cet acte est salué par de nouveaux applaudissements. Au milieu de conjurations et de gestes mystérieux destinés à fléchir la colère du dieu de la mer, le reste de la boisson est versé sur la tête des spectateurs proches de la tribune. Ce rite rappelle une tradition polonaise quand, le lundi de Pâques, les gens s'aspergent d'eau. Nkrumah commence son discours. Le lendemain, le texte sera publié dans l'Evening News sous le titre
« Une nouvelle Bible pour l'Afrique ».
Nkrumah est debout devant le micro, il promène son regard sur la place et dit
« Joyeuses fêtes et bonnes et heureuses années ».
C'est le 8 janvier. Aussi, les gens éclatent de rire. Nkrumah prend un air sérieux et la foule se tait momentanément. Les gens attendent, le regard fixé sur lui. Nkrumah se met à rire et tous rient à sa suite. Il redevient grave et aussitôt les visages des gens se font graves. Il sourit et la foule est souriante. Il commence par dire dans la langue Fanti que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés. Mais comme il le voit, tout le monde a bonne mine.
« C'est grâce à toi, Kwame !»
s'exclament des voix. Après cette introduction, il se retourne. À ce signal, Adama Fio s'approche de lui avec un haut pupitre sur lequel sont posées les feuilles de son discours. En anglais, le Premier ministre s'adresse aux auditeurs.
« Camarades et messieurs !»
Il parle d'un ton ferme, clair, monotone. Nkrumah est un orateur extraordinaire. Ses gestes sont modérés, mais expressifs. Même les Anglais reconnaissent qu'ils le regardent parler avec plaisir. C'est un homme de taille moyenne, bien bâti, élégant. Il a un visage intelligent avec un front haut, un regard sage et triste. Même quand Nkrumah rit, son regard est triste.
Camarades et messieurs.
Il rappelle ses deux maximes.
D'abord le royaume politique et le reste suivra. L'indépendance du Ghana est une phrase creuse tant que la libération totale du continent africain n'est pas réalisée.
Kwame dit
« Une première bataille a été gagnée, le pays est libre. Maintenant se déroule une deuxième bataille. Celle de la construction et de la libération de l'économie. Elle est beaucoup plus difficile et compliquée. Elle exige plus d'efforts, de sacrifices et de discipline. »
Lance alors un avertissement sévère à ses propres rangs. Il s'en prend au caractère bureaucratique du parti, aux carriéristes et aux dignitaires.
Je dois absolument mettre en garde ceux qui, placés par le parti à des postes de responsabilité, s'oublient et estiment qu'ils sont plus importants que le parti lui-même. Je dois mettre en garde ceux qui entrent au parti en espérant profiter de leur position pour se faire valoir, s'enrichir sur le dos du parti et du peuple.
Là, c'est le délire. La place ovationne l'orateur. Elle crie.
Anko, Kwame !
Encore, Kwame !
Anko, Anko !
Répète, répète ! Alors que la foule applaudit, crie et chante, un garçon en chemise aux couleurs du parti et de la nation, rouge, blanc, vert, bondit devant la tribune et fait des sauts vertigineux. Trois sauts dans une direction, il se tourne, trois sauts dans l'autre. Nkrumah interrompt son discours et regarde le spectacle avec intérêt. Trois bonds en arrière, trois bonds en avant. C'est un excellent acrobate, vous pouvez me croire. Il finit par se fatiguer et sous les applaudissements disparaît dans la foule. Nkrumah aborde maintenant son thème favori, l'Afrique. Pendant son discours, Adama Fio, le secrétaire général du parti, se tient à ses côtés. Il prend les feuillets qui ont été lus et suit du coin de l'œil ceux que le Premier ministre est en train de lire. Quand il estime qu'un passage est digne d'applaudissements, il se tourne vers la foule et lève bien haut les mains dans un geste signifiant. Attention, on y va. Nkrumah arrive à la fin de sa phrase et la main d'Adama Fio s'abaisse brutalement. Une rumeur monte de la foule. Si l'enthousiasme est convaincant, Adama Fio se frotte les mains et lance un clin d'œil à ceux qui se tiennent près de lui. Nkrumah s'en prend maintenant aux colonialistes.
Leur politique consiste à créer en Afrique des États indépendants, mais instables et faibles. De cette manière, ces ennemis de la liberté africaine comptent nous utiliser comme des marionnettes afin de maintenir leur domination en Afrique.
La foule exprime son indignation. Les gens s'écrient.
Abba ! Abba ! Conduis-nous, Kwame !
Le discours dure trois quarts d'heure. Debout, la foule écoute et réagit à chaque mot. Quand Nkrumah conclut par l'exclamation
« Vive l'unité et l'indépendance de l'Afrique !»
Dans un coin de la place, un orchestre de jazz entame un boogie-woogie tonitruant. Les gens qui se tiennent près de l'orchestre se mettent à danser. Le boogie déferle sur la place, provoquant un déhanchement instinctif de la foule. Mais la musique est bientôt étouffée, car Joe Fio Meyers, le secrétaire général des syndicats, entreprend la lecture d'une déclaration de loyauté et de soutien que le monde du travail du Ghana a remis entre les mains de Kwame Nkrumah. La foule quitte la place. Plus loin, je rencontre Kodzo. Kodzo est un employé à la poste et amateur de boxe, un copain. Je lui demande « Pourquoi n'es-tu pas venu ? C'était intéressant. »
« Est-ce que Kwame a parlé des salaires ?»«
Non. » »«
Tu vois ? Pourquoi il serait jalé ?» 1960.
Cette émission sur Kwame Nkrumah, homme politique indépendantiste et panafricaniste ghanéen, a été réalisée par Anouk Bhattar à partir de la lecture d'un extrait du livre intitulé « Il n'y aura pas de paradis » écrit par le journaliste polonais Kapuscinski. Merci à Johanna Tsipkin d'avoir prêté sa voix pour une partie de cette lecture.